Tout de suite, on va retrouver Denis Chessou, CO2 Mon Amour, avec un goût très printanier.
Très printanier, cher Julien Launay, puisqu'évidemment, vous avez le choix entre 15 types en short sur une pelouse nourrie de pesticides et sans fleurs et l'arrivée du printemps. Ben voilà, ben dans CO2 Mon Amour, on a choisi. On n'oppose pas les genres, mais on a quand même choisi. Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, CO2 de mon amour, avec aujourd'hui à la technique Dofar Guéride et Sophie Moreno, et assisté de Sophie Ledoré, de Jean-Christophe Pinaza, mon camarade de l'écriture, c'est Xavier Pestugia qui réalise cette émission. Une petite humeur, allez, une petite humeur de printemps après un hiver, il faut bien le dire, qui a été plutôt raide. Et oui, et ça réjouit, et ça arrange aussi d'ailleurs les sceptiques du changement climatique, parce qu'il y en a, sauf qu'un hiver froid, on est bien d'accord, ça ne vous fait pas le climat. Alors à l'affiche de la semaine, donc, une bande-annonce comme on les aime, avec des températures agréables et du soleil pour tout le monde. Les jonquilles, les primes verts, les banderoles syndicales fleurissent dans les rues des villes, les merles, les mésanges, les manifestants s'égosillent, les pies construisent leur nid. Et oui, le printemps, c'est le boom de l'immobilier chez les espèces à plumes. Avec un bémol quand même pour les martinets et les hirondelles, victimes du syndrome « Oh, bouchez-moi ces trous de la grange, ça fait des courants d'air !» Bah ouais, c'est pas la peine que je m'achète une résidence secondaire à la campagne pour me laisser emmerder par des animaux. Alors, en cette période d'incertitude climatique, la question qu'on brûle de poser aux météorologues qui célèbrent lundi prochain la journée mondiale de la météo, c'est « Vous le voyez comment notre printemps ? Tendre, à point, mi-cuit, bien cuit ?» Tenez, je vous propose d'aller chercher la réponse dans l'hémisphère sud, là-bas, en dessous, comme on dit en Australie, et plus précisément du côté de l'Antarctique, où l'on fêtait mercredi la fin de l'année polaire internationale par une journée consacrée aux océans polaires et à leurs habitants. Amis de la climatisation à tous les étages, bienvenue donc à la salle des machines, le gigantesque frigo polaire qui évacue vers l'espace le trop-plein de chaleur de la Terre. Vous imaginez 19 millions de kilomètres carrés de glace en hiver, une température d'été quand même moins 33. Bref, l'océan Austral n'est pas a priori des plus hospitaliers, avec son trou dans la couche d'ozone, ses UV, sa nuit qui peut durer 6 mois, ses eaux glaciales lourdes et glacées qui s'enfoncent dans les profondeurs pour faire le tour du monde en un millier d'années. Et des eaux pourtant qui grouillent de vie, à commencer par le fameux krill que vous connaissez, donc ce petit crustacé qui se nourrit la tête en bas, qui se nourrit des algues qui poussent sur le dessous de la banquise, et ce krill à qui nous devons une fière chandelle, puisqu'on estime que cette espèce à elle seule engloutit l'équivalent de la production de CO2 de plusieurs dizaines de millions de nos chères bagnoles. Et le krill, c'est aussi le plat du jour au menu des albatros, des manchots, des phoques, des baleines, des poissons de glace. Je ne sais pas si vous le connaissez celui-là, mais il a un petit antigel incorporé, personnel, ce qui fait qu'il supporte sans problème une température moyenne de moins 1,8 degrés dans l'eau. Essayez, vous m'en direz effectivement des nouvelles. Bref, tout un joyeux écosystème suspendu à l'existence d'une banquise australe et qui nous réserve quand même des surprises avec quelques signes quand même de faiblesse. Et si, comme le chantait Alain Bachung, un peu de notre avenir était caché là-bas, dans le secret des banquises ? Alors comme c'est le printemps, on va lâcher un petit peu les choses qui fâchent et pourtant elles ne manquent pas. On va vous parler de diversité aussi bien dans cette émission puisqu'on passe parfois sur des sujets plus durs, plus environnementaux, puis aussi plus nature. Ça va être assez nature aujourd'hui. Dans quelques instants, ça va être Jean-Marie Pelt qui va nous parler des animaux et des plantes qui jouent à armes égales dans la nature, point d'interrogation. Et puis donc ce sera notre ronde de printemps avec nos correspondants nature. Nous irons dans le sud-ouest rejoindre Frédéric Lisac, nous irons dans le Limousin avec Jean-Michel Tellier, on rejoindra Henri Clément qui nous parlera, lui, des abeilles. Nous aurons Michel Lys en Saintonge. En fin d'émission, nous aurons Marc Giraud. Alors là, c'est autre chose qui, lui, nous parlera. On a fait une petite série donc, sur Darwin, c'est tout bête. Donc on continuera à parler de l'enfance du cher Darwin. Et quand même aussi, il y a un lieu dont je ne vous ai pas encore parlé. Bah, c'est celui-là.
Un couple d'huîtres épis qui parade en vol, là, qui commence à s'installer au pornichet. Alors, je les imite très très mal, mais c'est le plaisir de les voir parler, d'observer leur comportement, là, avec ces petits échassiers qui sont accouplés pour la vie et qui chaque année reviennent pratiquement au même endroit, Il y a un couple qui va s'installer sur la petite zone qui n'a pas été labourée par nous cette fois-ci, mais par un groupe de sangliers qui a retourné le sol.
Ah ben là, ils vous ont aidé, alors.
Oui, là, ils nous ont donné un coup de main. Là.
Pour
une fois, on peut dire qu'ils ont été nos alliés.
Alors, si vous avez besoin d'iodes, de vent, une parenthèse de mer, des temps et de nature, j'ai ce qu'il vous faut. Je vous emmène dans le parc du Marcanterre, c'est en baie de Somme. Ce sera avec Philippe Carvette. Il est là, comme toutes les semaines, Jean-Marie Pelt, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Aujourd'hui, on va se poser une question. Le végétal et l'animal jouent-ils à armes égales dans le grand jardin de la vie? Ça, c'est la question que vous posez dans votre ouvrage, donc la raison du plus faible.
Oui, on croit qu'ils jouent à armes inégales et que les animaux mangent les plantes. Voilà, c'est ça qu'on croit. Seulement, si les animaux mangeaient toutes les plantes, il n'y aurait plus de plantes, du coup, il n'y aurait plus d'animaux non plus, du coup, il n'y aurait plus de vie, du coup, il n'y aurait plus de nature.
Fin de la séquence.
Donc,
au revoir Jean-Marie.
Donc, les plantes se défendent. Les plantes se défendent en fabriquant des substances qui peuvent être toxiques pour les animaux, en fabriquant des stratégies d'évitement. Et l'exemple extrêmement spectaculaire, c'est l'exemple de la passiflore. Oui. Cette passiflore est une fleur qui pousse comme une liane. C'est une liane qui donne de très jolies fleurs qui grimpent aux arbres dans les forêts tropicales, dont les fleurs sont agencées de telle sorte que les missionnaires espagnols y avaient cru voir les instruments de la passion du Christ. Et ils enseignaient la passion en montrant que les étamines, ça ressemblait à des marteaux, les pistils ressemblaient à des clous, les pétales ressemblaient à la couronne d'épines. Ah, c'est comme ça qu'ils enseignaient, avec des outils pédagogiques. La passiflore était un outil pédagogique. Or, cette passiflore a uni son sort à un magnifique papillon, très coloré, très beau, qui s'appelle l'Heliconius. Et il y a beaucoup d'espèces de passiflores, il y a beaucoup d'espèces d'héliconius, et ils forment des couples. Ils marchent deux par deux, parce que les héliconius se nourrissent des feuilles de passiflores. Alors ça se passe de la manière suivante. L'héliconius arrive sur la passiflore. Oui, mais alors celle-ci n'a pas tellement envie de se faire dévorer. Alors elle déguise sa feuille pour qu'elle ne ressemble plus à une feuille de passiflore, pour qu'elle ressemble à une feuille ordinaire. Et comme le papillon a repéré la feuille de passiflore, la feuille qui ressemble plus à une feuille de passiflore...
Oh, ça ne m'intéresse pas.
Ça ne l'intéresse pas, oui. Donc ça ne marche pas. Alors la passiflore grimpe, arrive tout en haut, fabrique ses fleurs au soleil, avec du nectar qui nourrit les colibris. Seulement quand elle arrive en haut, elle a tout d'un coup une pieuse pensée pour le papillon. Elle forme, c'est très touchant parce que là, elle commence à former des feuilles qui sont en forme de feuilles de passiflore. Alors le papillon atterrit dessus. Et puis, ces feuilles sont jeunes. Donc le papillon va avoir grand appétit et va manger ses feuilles. Ouh, la passiflore dit, il va trop fort. Trop fort.
Oui, ça me fait mal.
C'est pas bien, il faut qu'il y ait moins fort. Qu'est-ce qu'il fait le papillon sur la feuille de passiflore? Il ne fait pas seulement se nourrir, mais il pose ses œufs dessus. Et quand les larves se développent, eh bien...
Elles ont le garde-manger tout de suite.
Elles ont le garde-manger tout de suite. Donc, on va se débrouiller pour qu'il n'y ait pas trop de larves. On va réguler. Alors, la passiflore invente un mime. Elle met sur ses feuilles des faux œufs de papillon. Jaunes, exactement comme les œufs du papillon, mais ce n'est pas des vrais œufs de papillon. Alors le papillon, il voit qu'il y a, quand il arrive, des œufs. Donc il dit, si je vais là, eh bien mes pauvres larves n'auront rien à manger parce que les autres auront éclos avant, elles auront tout bouffé, mes larves à moi vont crever. Quand on m'entend, les scientifiques, ils doivent hurler d'horreur en disant, il fait de l'anthropocentrisme, l'anthropomorphisme. Mais tant pis, continuons. Alors il ne pompe pas ses œufs sur ces feuilles qui contiennent des faux œufs. Pour être sûr que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, il y a un botaniste qui a peint les œufs en vert, et alors qu'ils sont en jaune. Ben dès que les œufs sont peints en vert, tout de suite, les héliconius pondent leurs œufs parce qu'ils ne les voient plus. Ils ne voient plus le mime. Quand le mime s'efface, ils ne le voient plus. Donc, il arrive, et puis il y a quand même une certaine prédation qui se fait. Mais on a l'impression que la passiflore donne au papillon, disons, juste ce qu'il lui faut.
C'est quoi, c'est un altruisme modéré, en
fait ? Oui, plus que ça. En plus, elle est extrêmement gentille avec le papillon. Elle lui donne autre chose. Dans ses feuilles, il y a une substance toxique. Le papillon n'est pas sensible à cette toxicité. Les oiseaux sont sensibles à cette toxicité. La substance toxique s'accumule dans le papillon et les oiseaux ne mangent plus le papillon. D'accord. Le papillon est protégé par la passiflore qu'il broute. Du coup, il y a des papillons qui vont se mettre à devenir mimétiques des papillons toxiques pour les oiseaux. Mais ils n'auront pas brouté les passiflores, parce qu'eux ne mangent pas sur les passiflores.
Ils n'auront pas ingéré.
Mais ils ont ressemblé aux héliconius. Et donc les oiseaux, voyant qu'il y a une grande ressemblance, se gardent bien d'y toucher. Donc la passiflore protège son papillon prédateur, et puis d'autres papillons que généreusement elle protège par ce mime étonnant.
Alors, mais quel est l'intérêt de la passiflore, justement, cet altruisme-là? C'est quand même, elle donne plus qu'elle reçoit, là. Donc...
Elle donne. Alors, qu'est-ce qu'elle donne, la passiflore? Un, elle nourrit des colibris.
Oui.
Deux, elle nourrit des fourmis qui circulent sur les feuilles et qui mangent ce qui sort de petites glandes que la feuille fabrique exprès pour elle.
D'accord.
Et qui ont pour mission d'éjecter les insectes. Pas trop les papillons, les autres. Il faut éjecter ceux qui pourraient manger. Il n'y a pas que les papillons qui peuvent manger les feuilles, il y a encore d'autres insectes. Ceux-là, ils sont éjectés par les fourmis. Il ne reste plus que les papillons. Elle donne aux papillons sa nourriture. Elle protège le papillon contre l'oiseau qui pourrait le manger. Et elle protège d'autres papillons contre aussi d'autres oiseaux. Ben, voilà une fleur extraordinaire, chrétienne. Et on comprend très bien que les moines l'ont utilisée pour enseigner le christianisme aux Indiens.
Voilà. Et en plus, c'est utile. Hein. Je crois qu'on le passiflore, ça
oui, donne, oui,
vertu, hein.
Ça donne les fruits de la passion que tout le monde connaît. Et puis, c'est utile parce que c'est une plante qui est sédative et qui entre dans les mélanges sédatifs classiques. C'est un calmant.
Donc, ce que vous avez raconté, c'est un peu la course aux armements entre les plantes et les insectes.
Oui, c'est comment les uns s'adaptent aux autres. C'est voilà. Des coévolutions. Ils se sont adaptés pendant des millions d'années les uns aux autres et ils fonctionnent ensemble. Et ça forme ces structures qui sont l'écologie elle-même, c'est-à-dire les interrelations multiples entre tous les vivants dans la nature qui constituent la nature.
Le tout dans la raison du plus faible de Jean-Marie Pell que l'on retrouvera la semaine prochaine. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Il est là, les terrasses des cafés pépis, les jupes raccourcissent, le chauffage baisse et la nature surtout fait son boulot parce que c'est le grand appel de la lumière. Alors, lorsque je regarde les carnets de saison du mois de mars de Terre Sauvage avec des photos absolument superbes, on se rend compte que le martin pêcheur est déjà au printemps en train d'arpenter son petit kilomètre de cours d'eau, là, à lui, avec beaucoup de vigilance. On voit sortir la lusule printanière. Bah, c'est une herbacée dont les graines sont dispersées par les fourmis. On peut voir aussi la ciboulette, évidemment, qui pointe dans vos jardins. On peut voir aussi les premiers papillons, à savoir le pan du jour et le vulcain. Et puis, bah, nous, on va prendre la température du côté du sud-ouest. On va rejoindre un homme qui est éditeur de livres de nature. L'édition s'appelle Plume de Carotte. L'homme s'appelle Frédéric Lizac. Frédéric, bonjour.
Bonjour, Denis.
Alors, vous êtes dans les Corbières. Et donc, là, aujourd'hui, vous êtes notre premier correspondant nature. Dites-nous où vous êtes précisément dans ce sud-ouest.
Alors, je suis dans les Corbières, juste derrière l'Alaric, sur une petite commune qui s'appelle Mont-Laure, à peu près à 50 km des Pyrénées. Mais alors là, avec le temps qu'il fait et le léger vent de Serpe, le vent du nord qui souffle, je vois les Pyrénées magnifiquement. Je pourrais même presque distinguer les skieurs, vous voyez.
D'accord.
Alors qu'elles sont un peu loin quand même. Ouais. Nous avons très très beau temps de printemps sur les Corbières aujourd'hui.
Et donc, le printemps, comment il se manifeste? On imagine qu'il y a déjà eu effectivement des premiers passages d'amandiers, ça s'est fait?
Alors voilà, ça, les amandiers, ils ont eu du retard cette année, effectivement, un petit peu comme toute la végétation en France et en Europe. mais ils se sont bien rattrapés parce qu'ils ont commencé à fleurir il y a 3-4 semaines. Et là, c'est quasiment fini. Je suis désolé, Denis, c'est trop tard.
Hein, oui.
Pour, si vous vouliez voir les amandiers dans les corbières, c'était somptueux avec encore ce paysage très brun. Vous voyez, où il n'y a pas encore de vert et des touches de blanc, des touches de rose pâle, des touches de rose un peu vif. Ah, c'était vraiment fantastique. Mais ça y est, c'est passé. Par contre, le relais, là, ça s'accélère. C'est un petit peu comme si la nature voulait voulait rattraper son retard, ça s'accélère. Et là, le relais est bien pris, vous avez les feuillages qui commencent à sortir, vous avez les pruneliers, ces petits buissons délicats, vous savez, les pruneliers, on les reconnaît par rapport aux aubépines, c'est que les fleurs sortent avant les feuilles, alors que les aubépines, ça viendra un petit peu plus tard quand les feuilles seront sorties. Vous avez entre les vignes carrément des tapis de roquettes blanches, la roquette sauvage, qui font entre les rangées de vignes qui sont encore nues, les feuilles sont pas encore sorties.
Il faut peut-être pas la préparer en salade, hein, celle-là. Enfin bon, parce que
c'est un petit peu tard là.
Ouais, c'est ça.
Quand elle se met en fleurs, elle est un petit peu dure, elle est piquante. Ouais. Les feuilles toutes jeunes, ça peut être délicieux.
Ah, c'est très bien ça. Oui.
Voilà, la petite roquette sauvage quand même, elle passe vite son côté comestible, agréable. Mais là, c'est magnifique, vraiment. Il y a ces tapis blancs. Ça fait comme des lignes un petit peu, comme si le paysage là que j'ai devant moi, il y avait un paysagiste qui avait tracé des belles lignes blanches entre les lignes de pieds de vigne.
Et puis les asperges sauvages, elles existent là
Ah oui, je peux vous dire qu'elles existent. Ouais. On s'est même fait une petite omelette à midi. Bon, elles sont toutes petites, hein, vous savez, c'est pas les grosses asperges qu'on connaît, les blanches ou les vertes, même si elles peuvent être délicieuses. Là, elles sont toutes fines, c'est des toutes petites tiges qui sortent dans les broussailles. Qui sortent avant leur petit feuillage plumeux qu'on verra un petit peu plus tard dans la saison. Et alors, vous prenez la pointe, ça se mange comme ça, ou alors vous les mettez juste à la poêle, tournez-retournez et vous cassez les œufs dessus. Il y en avait quelques-unes déjà la semaine dernière, mais là, ça y est, elles sont sorties suffisamment abondantes pour qu'on les déguste. Et,
alors, vous avez aussi dans la grande famille des orchidées à peu près ce qu'il faut, pas très loin de chez vous. Mais si on doit se lancer quand même aussi sur un petit coup de gueule par rapport à la biodiversité, puis aussi un coup de cœur, qu'est-ce que ça pourrait être, Frédéric?
Ils sont mêlés pour moi, si vous voulez. C'est ce paysage où, depuis 2000 ans, depuis que les Romains ont amené la vigne, vous avez quelque chose d'extraordinairement mêlé entre le sauvage et l'humanisé. Ici, on est sur un paysage où toutes les crêtes sont en gneiss, c'est un calcaire un peu dur et la garrigue est installée. Et puis, tous les creux sont en argile et là, on a mis des vignes. Et vous avez vraiment une alternance de ces champs de vignes dans tous les creux et de bosses sauvages avec les chênes verts, avec les romarins, avec les schistes qui vont pas tarder à fleurir. Moi, je trouve que c'est un assemblage presque modèle de ce que pourrait être l'occupation humaine d'un espace entre ces vignes et ces garrigues. Là, le coup de gueule, entre guillemets, c'est que les vignes, c'est quand même une culture qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup traitée. Vous avez compris que je pense trop.
Oui.
Et c'est vrai que même si dans le coin et comme partout ailleurs, les vignerons commencent à parler d'agriculture raisonnée, on sait les limites de cette terminologie, mais enfin, c'est quand même une étape. On pourrait espérer quand même qu'ils aillent dans le sens de traiter beaucoup moins. Évidemment avec des méthodes qui permettraient quand même d'obtenir du bon raisin, mais franchement, s'il y avait un petit peu moins de traitement, je pense que, évidemment, c'est une région où il y a beaucoup de vent, vous savez.
Et comme nous sommes dans la semaine pour les alternatives aux pesticides, évidemment, ça tombe très très bien.
Oui, il y a des viticulteurs biologiques dans le coin, il y en a qui commencent à s'y mettre.
Alors, chef Frédéric, je sais que vous connaissez Jean-Michel Tollière qui interviendra donc après dans le Limousin,
oui.
et que vous connaissez aussi Philippe Carvette.
Alors, Philippe,
voilà, donc je vais vous emmener tout de suite, si vous voulez, dans ce lieu qui s'appelle le Marcanterre, autrement dit, mer qui entre en terre. Et donc, je vous disais que si vous aviez besoin d'iode, c'est formidable. Là, actuellement, j'ai appelé Philippe tout à l'heure parce qu'on a juste fait ce reportage il n'y a pas longtemps, mais donc le vent d'Est est là, il y a un ciel clair, vous avez une lumière qui virevolte. Donc, c'est les conditions idéales pour la migration. Si vous vous sentez un peu l'âme de Nils Holgersson avec une oie cendrée qui n'est pas loin, eh bien, allez-y avec beaucoup de tranquillité. Et puis, donc, nous, on va se promener un tout petit peu dans ce parc et découvrir différents oiseaux avec Philippe Carvette.
Ce parc du Mercanterre est assez grand, 250 hectares, je crois, faut le rappeler.
Oui, tout à fait, oui, 250 hectares. C'est à la fois très grand pour les hommes, plutôt, mais pour les oiseaux migrateurs qui viennent de Sibérie, qui vont passer l'hiver en Afrique.
C'est une petite tâche, quoi.
C'est une petite tâche, mais c'est la multiplication des petites tâches qui font les grandes zones sauvages, finalement.
Puis il y a toujours ce ciel changeant de la baie de Somme qui vous enveloppe en permanence. Premier plan, on a donc des dunes qui sont un peu fixées par des ajoncs, des oyas sans doute.
Oui, avec des oyas, oui. Et puis la baie de la Somme derrière, des zones de prairies, des belles lumières au niveau de l'eau.
Là, c'est un temps idéal pour la lumière, puisqu'on a des belles éclaircies, un petit peu de pluie, des nuages, donc ça nous donne des beaux contrastes qui attirent aujourd'hui les amoureux de la nature, puisque l'observation des oiseaux est importante. Mais les oiseaux, sans le paysage, on parle de paysage pour l'homme, on va parler d'habitat, de milieu de vie pour les espèces, eh bien, c'est indispensable de lier les deux, hein. L'observation pure des oiseaux présente peu d'intérêt si on ne s'attache pas à la préservation et à l'observation de leur mode de vie, mais aussi de leur habitat qui permet aux espèces de prospérer. Les couples d'huîtres épis là, qui paradent en vol, là, qui commencent à s'installer pour nicher. Alors, je les imite très très mal, mais c'est le plaisir de les voir parader et d'observer leur comportement là, avec ces petits échassiers qui sont accouplés pour la vie et qui chaque année reviennent pratiquement au même endroit. Là, il y a un couple qui va s'installer sur la petite zone qui n'a pas été labourée par nous cette fois-ci, mais par un groupe de sangliers qui a retourné le sol.
Ah ben là, ils vous ont aidé là.
Oui, là, ils nous ont donné un coup de main. Là.
Pour
une fois, on peut dire qu'ils ont été nos alliés. Et le couple d'huîtres-épis s'est installé juste à l'endroit où c'est labouré.
La huîtres-épis, parce que ça ressemble aussi à la pie.
Ça ressemble à la pie par son plumage, parce qu'il est noir et blanc, avec un long bec orange. Et puis huîtrier, il est un petit peu mal baptisé, parce qu'il se nourrit, c'est vrai, de coquillages, mais il est globalement incapable d'ouvrir des huîtres. Et puis en baie de Somme, on a bien des choses, mais on a hélas pas d'huîtres. Non, on n'a pas d'huîtres, on n'a pas de vin non plus. On a quand même des huîtres-épis.
Nous sommes entrés dans un poste d'observation et nous sommes face à des oiseaux qu'on appelle des limicoles et qui sont les avocettes. Alors d'abord, il y a ce bec assez étonnant, cette spatule un peu recourbée.
Oui, c'est un oiseau assez étrange, tout à la fois étrange et élégant. Hein. Déjà des pattes bleues, ce qui est rare chez les oiseaux européens. Ensuite, un bec qui remonte vers le haut, fin comme une aiguille, pour sabrer la surface de l'eau. Et puis, peut-être à cause de son élégance, un oiseau extrêmement exigeant pour la qualité de l'eau, le niveau d'eau, les sites de nidification. Elle adore l'eau saumâtre aussi. C'est un oiseau qui a besoin de milieux bien particuliers. Si ces milieux disparaissent, la population disparaît.
Ce qu'on appelle les limicoles sont donc des oiseaux qui ont besoin d'humus, de marais.
Voilà, hein, dans le mot limicole, vous avez le mot limon, hein, ce sont des oiseaux qui se nourrissent dans la vase. Et colaré en latin, c'est fréquenté, habité, donc les chevaliers, les bécassos, les bécassines.
Le courlis cendré en fait partie.
Le courlis cendré, le vanneau huppé, hein, sont des limicoles, donc souvent des grandes pattes et un assez grand bec pour chercher dans les vasières.
Vous connaissez l'origine du nom, avocette?
Je pense que ça vient d'avocat, à cause du plumage noir et blanc. Hein. Là-bas, la bossette, normalement. Ouais, une parade, la femelle a la tête au ras de l'eau à plat. Et le mâle est en train de tourner autour d'elle. Alors, on a l'impression qu'il fait sa toilette, mais c'est une parade nuptiale. Il lisse ses plumes. Alors, il s'approche de plus en plus de la femelle. Il commence à donner des coups de bec dans l'eau et puis à éclabousser un petit peu la femelle. Voilà, là, il va passer son bec sous le cou de la femelle. Et voilà l'accouplement. Alors ça dure 2-3 secondes, la parade dure plutôt 2-3 minutes. Et juste à la fin de l'accouplement, hop, dès que le mâle descend, il se croise le bec, comme un petit bisou final, avant de se séparer.
Comment ça se passe? Il y a des dominants, il y a des oiseaux plus forts que les autres?
Alors le problème de la avocette, c'est qu'elle niche en colonie, en groupe, mais qu'elles ne peuvent pas se sentir mutuellement. Ça rappelle d'autres espèces. Et chaque couple défend un mini-territoire, c'est-à-dire le nid, une simple petite cuvette dans le sable. Et comme les nids sont voisins les uns des autres, il y a toujours des petites escarmouches, c'est pas bien méchant, hein, mais c'est beaucoup de bluffs, et puis quelques petits sauts, quelques coups d'aile, quelques petits coups de bec. Mais... Là, il va y avoir une centaine de couples qui va nicher sur le parc du Marcanterre, ce qui est la 5e colonie française.
Philippe, là, nous sommes à 1,50 m d'un nid. On est vraiment à même le sol. Et cette femelle a pas l'air d'être apeurée.
Et c'est vous qui nous l'avez indiqué, parce que vraiment, elle se confond totalement par mimétisme avec l'environnement. Là.
C'est une femelle de canard colvert qui est en train de couver. Bon, les colverts ne sont pas des oiseaux très farouches, mais il y a le fait aussi que quand on passe long des chemins, elle est dissimulée dans la végétation, on ne la voit pas, et personne ne prête attention à elle, donc elle se sent vraiment en sécurité. Quoi. C'est que les oiseaux, petit à petit, si on les respecte, peuvent accepter l'homme. On a tous eu dans nos jardins des rouges-gorges qui nichent à proximité. Et à la force de sortir de chez soi, de ne pas regarder l'oiseau au début, eh bien, il prend confiance. Les réserves, ça doit être un pacte de confiance entre l'homme et la nature. Si l'homme respecte un minimum de choses, il sera gagnant à 100% parce qu'il va obtenir des choses très agréables avec un minimum de contraintes.
Il y en a deux.
Là, il y a au moins deux poussins. Il y en a un qui est déjà plus hardi que l'autre, qui est peut-être né un peu plus tard. Il tend la tête vers la végétation. C'est génial.
Donc ce lieu est assez incroyable, hein, cette parenthèse en cette baie de Somme, donc en Picardie, car la Picardie n'est pas encore passée à la trappe de la réforme territoriale. Merci quand même pour elle. Alors donc voilà, bah là vous avez Philippe Carouette. Les oiseaux évidemment sont en paix parce que autour ils sont un peu cernés quand même par les chasseurs, faut bien le dire. Et bah là ils ont évidemment ce havre de paix dans ce cordon dunaire qui est de toute beauté avec tout un travail qui est effectué. Et je peux vous envoyer un ouvrage qui est sorti aux éditions Sud-Ouest, qui s'appelle le guide des oiseaux de la baie de Somme et qui est donc signé Philippe Carouette. 110 espèces, il y en a plus de 340 qui ont été observées, voilà, c'est comme ça. Alors je ne sais pas combien nous en avons dans le Limousin. Jean-Michel Tellier, bonjour à vous.
Bonjour Denis.
Alors vous avez vu, on a fait un grand saut, on est parti des Corbières, on est remonté en baie de Somme, on revient chez vous dans le Limousin, on le rappelle, la Haute-Vienne, la Creuse et la Corrèze où vous êtes. Alors Jean-Michel, à la fois vous intervenez tout à fait régulièrement toutes les semaines sur France Bleu Limousin, donc nos amis de France Bleu Limousin avec votre chronique environnement. Vous appartenez au centre nature qui s'appelle La Loutre et donc qui est fédéré par Limousin Nature Environnement. Et nous sommes chez vous en Saint-Trie. La Saint-Trie, ça s'écrit avec un X, hein, X-A-I-N-T-R-I-E. On est entre Tulle et Aurillac, non loin d'Argentat. Racontez-nous, qu'est-ce que vous avez sous les yeux? Quel printemps vous avez sous les yeux?
Alors déjà, c'est vrai que le Limousin, ça reste encore un petit peu un territoire mystérieux pour beaucoup de Français. On se trouve sur le contrefort du Massif Central, sur sa partie ouest. Et je me trouve en effet dans le département de la Corrèze, dans l'extrême sud-est de cette partie du département de la Corrèze. Pour moi, je pense que c'est le territoire, je ne suis pas complètement objectif, mais le plus spectaculaire de la région. On se trouve entre Plateau de Mille Vaches et Bassin de Brive, à quelques 400-500 mètres d'altitude, comme vous l'avez compris. On est en moyenne montagne, et autour de moi, un paysage qui est magnifique, parce que ce ne sont pas des mornes plaines ici. J'ai les gorges de la Maronne qui sont juste face à moi, 200 mètres de déclivité. Et si je regarde sur ma droite, derrière un prunellier qui est tout à fait raccord avec le blanc de la neige, de la chaîne des Puits, on est tout près du camp. Et je ne vais pas être très original, il fait à peu près les mêmes conditions climatiques que dans les Corbières et que probablement du côté de la baie de Somme.
Alors qu'est-ce qui est à l'heure au niveau du printemps aujourd'hui? Qu'est-ce qui est en retard? Qu'est-ce qui est à l'heure?
Alors, ce qu'il faut dire d'abord, Denis, le top départ chez nous du retour des migrateurs, des coucous, des fauvettes, des pouillots, c'est chaque année le retour des grues cendrées. Donc ça, c'est un spectacle immuable et je peux vous assurer que, et c'est beau d'ailleurs de voir les Limousins encore émus par ce spectacle gratuit, on se trouve sur l'autoroute des grues. Et par contre, cette année, en effet, les oiseaux ne se sont pas trompés, ils sont toujours, les grues, elles passent bon an mal an toujours à la même période. Et c'est vrai que en Limousin, par contre, il y a un vrai petit décalage également sur la flore, parce qu'on a eu beaucoup de neige, et que les prunelliers dont je vous en parlais, hein, ces fleurs blanches immaculées, elles ont à peu près une semaine, 15 jours de retard.
Quelles sont vos inquiétudes quand même en matière de biodiversité et d'environnement aujourd'hui?
Alors c'est vrai que le Limousin, vous le savez, on est plutôt une région privilégiée.
Oui, vraiment.
Si on écoute nos élus, c'est une vaste réserve naturelle, mais qui n'a pas vraiment les statuts.
Même si vous avez aussi quelques bouts d'uranium, où on a quand même vu ça à la télévision, qui sont pas tristes. Bon, ça, c'est autre chose.
Oui, mais oui, on est en plein dans ce débat-là, parce que, par exemple, on parle beaucoup d'énergie renouvelable. On a l'impression que l'on est en train de planter un petit peu partout des éoliennes qui polluent nos paysages, sauf que dans le même moment, pendant des dizaines d'années en Limousin et ailleurs, on a mis, passez-moi l'expression, on dirait des choses, j'ose pas le dire d'ailleurs, mais en tous les cas, on l'a mis sous le tapis, tous ces déchets nucléaires que l'on a amenés en catimini en Limousin. Et c'est vrai que c'est un petit coup de gueule par rapport à ça, parce que là où il y a des parcs éoliens qui s'installent en Limousin comme ailleurs, avant même que le projet puisse naître, il y a une association d'opposants. Alors attention, moi je suis tout comme vous très attaché au paysage, mais systématiquement, ces opposants, ce sont non pas des militants de la cause, mais plutôt des gens qui habitent juste à côté et qui ne veulent pas voir ça dans leur paysage. Alors continuons à mettre des produits qui ont des durées de vie incroyables de plusieurs millions d'années, qui peuvent encore contaminer pendant des millions d'années, et en disant, en effet, on va détruire nos paysages avec les éoliennes, c'est un peu le paradoxe. Juste de rappeler qu'en Limousin, il n'y a pas 36 000 parcs éoliens, il y en a qu'un seul, mais que la plupart des projets sont bloqués, et c'est bien dommage. Parce que la population, bien souvent, est plutôt favorable à ce type d'aménagement.
Alors Jean-Michel, donc on poursuivra ce voyage une autre fois, on parlera effectivement de l'hydroélectricité, on aura quelques mots à dire aussi sur la vallée de la Dordogne, parce qu'elle est quand même extrêmement foisonnante de ce côté-là. Et puis moi je vous propose, on va continuer notre voyage, on va le continuer en musique avec Laurent Voulzy, et puis ensuite, nous irons retrouver Henri Clément, et on parlera des abeilles avec lui. Henri Clément, c'est le président de l'Union nationale de l'apiculture française. Donc, on ira le rejoindre du côté de Montpellier. Oui, on me dit qu'il n'y a pas de problème. On va le joindre. Et après, il y aura Michel Lys. Oui, on ira en Saintonge. Lui aussi, c'est notre correspondant du jour.
C'est une fille de vrille, pauvre de moi, une fille de l'infini. Elle ne veut pas découvrir dans le film tout ce qu'elle a. Son cœur ni son corps, c'est comme ça. Les filles de janvier, on le dit, n'aiment pas garder leurs habits. Au coin du feu, elles se prélassent. Février, mars, voici le joli mois de mai.
Vous allez me dire, fille d'avril de Voulzy, elle a 10 jours d'avance. Mais c'est comme ça, mais oui, avec le changement climatique, que voulez-vous. Alors, on va poursuivre notre fête du printemps dans ces hauts de mon amour avec d'autres sentinelles nature, d'autres sentinelles du printemps, avec Henri Clément. On va parler d'abeilles, amis des hyménoptères. Bonjour. Bonjour Henri Clément.
Bonjour Denis.
Vous êtes le président de l'Union nationale de l'apiculture française. Vous êtes en ce moment du côté de Montpellier. Alors, on imagine bien que les abeilles sont déjà de sortie. Comment elles fonctionnent, nos abeilles, au printemps? C'est quoi leur vie au printemps?
C'est-à-dire qu'en fait, c'est le début du cycle de développement de la colonie. C'est-à-dire que dès que les premières fleurs commencent à éclore, qu'elles peuvent prélever du pollen du nectar, elles le ramènent à la ruche et la reine commence à pondre. Et donc, c'est le cycle qui repart. Et on voit les premières pontes, les premières larves, les premières abeilles jeunes qui apparaissent. C'est la fin des vieilles abeilles qui ont passé l'hiver. Et donc, le cycle repart pour de nouvelles aventures. Et le développement va être très rapide parce que dès que les apports de pollen et de nectar croissent, la ponte de la reine se multiplie et on arrive même à ce qu'elle ponde jusqu'à 2000 œufs par jour. Quoi.
Alors, rappelez-nous la durée de vie d'une abeille, c'est quoi?
Alors, en été, c'est 5-6 semaines et en hiver, c'est plusieurs mois.
Alors, on en profite, Henri Clément, pour vous demander évidemment quel est l'état de santé de ces abeilles aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, d'après toutes les informations que j'ai pu récolter dans les différentes régions de France, l'hivernage se passerait plutôt bien. C'est-à-dire que dans les zones où privilégiées, où il y a une grande diversité végétale, où il n'y a pas trop de pesticides, etc., l'hivernage serait même très bon. Moi, personnellement, je suis à entre 5 et 8% de perte, ce qui est une mortalité naturelle. En revanche, dans les zones de grande culture, où il y a encore certains pesticides qui sont employés, ou dans des zones où on a traité contre la fièvre catarrhale avec des produits un peu bizarres, semble-t-il, effectivement, il semble qu'il y ait encore des dégâts et ça, c'est toujours préjudiciable pour les apiculteurs.
Alors, on connaît évidemment les dangers avec les différents pesticides, que ce soit des gauchos, des régents, des cruiseurs. Je sais qu'il y a eu des débats, des... Bon, qu'en est-il du frelon asiatique aujourd'hui?
Alors, le frelon asiatique, il continue son développement au niveau national. C'est-à-dire qu'il est arrivé il y a 4 ans et aujourd'hui, il a colonisé plus du tiers de la France. Les pouvoirs publics ont mis très longtemps à prendre en considération les dangers de ce frelon. Il semblerait que ce soit un peu plus le cas aujourd'hui, même si on ne sait pas encore quel est le ministère qui va gérer cette situation difficile. Mais il est grand temps qu'on prenne des mesures parce que pour faire baisser la pression, on ne va plus l'éradiquer, c'est trop tard. Par contre, il faut prendre des mesures parce que sinon, quand il est bien implanté, quand les nids se multiplient, il y a des effets considérables sur les abeilles et au-delà des abeilles pour la production de petits fruits rouges, pour la sécurité même des populations, etc.
Quelles seraient les craintes et les espoirs pour les abeilles aujourd'hui, Henri Clément?
Écoutez, moi, ce que je crois, c'est que premièrement, on n'a jamais pris autant conscience du rôle essentiel de l'abeille de par la pollinisation, que ce soit pour la biodiversité comme la production agricole. Et apiculteurs et agriculteurs, nous sommes totalement complémentaires. Et en même temps, on n'a jamais eu autant de menaces sur les abeilles, que ce soit les produits phytosanitaires, que ce soit avec les bouleversements climatiques, des incidences sanitaires, le frelon qui arrive. Effectivement, si on prend des mesures en matière d'homologation des produits beaucoup plus rigoureuses, si les laboratoires travaillent sur des médicaments vis-à-vis du varroa, etc. Si on arrive à endiguer l'évolution du frelon, je pense que la situation n'est pas irréversible. D'ailleurs, dans les zones où les produits ont été retirés et où l'environnement est quand même un peu protégé, on arrive à avoir des populations d'abeilles qui se maintiennent. Il ne faut pas non plus être trop alarmiste. La situation est préoccupante, mais elle n'est pas irréversible.
On rappelle juste un chiffre, Henri Clément, c'est qu'aujourd'hui, à peu près 40% du monde végétal et en tout cas de l'arboriculture dépendent des abeilles.
Bon, c'est plus que ça, c'est-à-dire qu'en fait, les dernières recherches qui ont été publiées au niveau international par l'INRA et le CNRS indiquent que 35% de la masse alimentaire sur la planète provient des insectes et 80% de l'abeille. Et non seulement 35%, mais 65% de notre diversité alimentaire. C'est-à-dire que si, Denis, nous avons une table qui est aussi variée, c'est grâce aux insectes et grâce aux abeilles. Si demain, il y a moins d'abeilles, il y a moins de production, donc les prix vont encore augmenter et on n'aura plus de kiwis, de fruits, même de carottes, d'oignons, etc. sur nos tables. Ce qui n'est pas du tout souhaitable, bien sûr, et espérons qu'on trouvera les moyens de sauvegarder l'abeille, car elle le vaut bien, elle nous rend des services considérables.
Un grand merci, Henri Clément. Vous saluez vos petites abeilles personnelles du côté de la Cévenne lozérienne, et puis à très bientôt. Au revoir, Henri.
À très bientôt.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie?
L'écologie.
Et dans l'écologie, la diététique. On a tout lu sur la diététique.
Oh, Olivier, ne te vante pas, vous avez lu quelques livres sur la diététique.
Non, maman, j'ai tout lu sur la diététique, tout.
C'est passionnant, ça.
Vous connaissez la doctoresse Kousmine?
Non.
C'est un génie.
Et la macrobiotique?
Ça, oui, un peu. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là?
Ils disent qu'on mange de la merde.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
Voilà, et donc c'est la semaine pour les alternatives aux pesticides, hein, il faut le rappeler. Donc c'est un événement qui est issu de la société civile, hein, qui chaque année quand même prend de l'ampleur. Dans l'état actuel des choses, vous dire que l'on peut s'en passer, ce serait peut-être un peu inconscient. En revanche, la France consomme quand même un tiers des pesticides de la consommation de l'Union européenne. Et on peut prouver que le progrès n'est pas que dans la chimie de synthèse, mais aussi dans des systèmes alternatifs qui vont combiner alors une bonne dose d'observation, d'anticipation, d'observation, de prévention. Donc c'est un savoir-faire qui est obligatoirement différent. Ça c'est sûr, hein. On est moins chimiste et on s'occupe plus du sol, on s'occupe plus des plantes. Ben voilà, c'est comme ça. Donc des communes s'y sont mises, des agriculteurs, des jardiniers, des maraîchers, des magasins comme Botanique qui les ont retirés aussi donc, de leur linéaire, des vignerons. Voilà, donc c'est un mouvement qui petit à petit prend de l'ampleur et qui ne peut que réjouir un homme comme Michel Lys, qui est un très bon jardinier bio. Bonjour cher Michel Lys.
Bonjour mon cher Denis Chessou.
Vous allez bien, je sais que vous êtes en Saintonge, vous allez nous servir de...
Je suis en Saintonge, au cœur même de la Saintonge. Je suis à Breuillé, un petit village d'à côté de Royan,
ah oui,
qui au milieu d'une pinède, aujourd'hui crée sa première fête des plantes.
Bon, et vous êtes
et
pas...
je peux vous dire, il y a de très belles choses à voir.
Oui.
C'est aujourd'hui et demain.
Bon, bah c'est très bien. Donc on sait que vous y êtes. La Saintonge est au sud de l'Aunis. Hein. L'Aunis, c'est le pays de La Rochelle. Et là, évidemment, on est en Saintonge, le pays de Sainte.
Nous sommes au sud de l'Aunis.
Voilà, exactement. Alors, donc, ce printemps, dites-nous, qu'est-ce qui est visible? Qu'est-ce qui est intéressant?
Alors, ce printemps, d'abord, il est très fleuri. Pourquoi? Parce que l'hiver a été rigoureux dans certains coins de France. Et plus un hiver est rigoureux, plus les arbres et les arbustes fleurissent abondamment lorsqu'arrive le printemps et les premiers jours du printemps. C'est même parfois un peu dangereux parce que nous avons eu ce matin, par exemple, à Sainte, on a eu 1 degré de température à 5 heures du matin.
Ah, d'accord.
Dans beaucoup de régions de France, vous avez eu moins 2, moins 3.
Mais heureusement, votre moustache vous protège, cher Michel.
Ah, oh, mais que voulez-vous, bien ma sûr. Moustache est toute givrée, mais tout va bien.
Et tout va bien. Alors,
nous avons un beau soleil et 15 degrés à Breuillé en ce moment.
Moi, je me souviens que vous me parliez aussi d'un deuxième printemps, c'est quand ça?
Alors, le deuxième printemps, celui qui se trouve après Pâques. Il faut que pour qu'un jardin soit beau,
oui,
comme un bon vin, il faut qu'il ait fait ses Pâques.
Oui, donc c'est là que ça se passe. Alors si je vous lance comme ça quelques couleurs, on va commencer par le vert. Qu'est-ce que vous me répondez pour le
alors,
vert?
Alors le vert, mais je vous répondrai que le vert, vous avez d'abord le vert de toute la forêt de la Couvre, de toutes ces pinèdes qui sont très belles le long de la côte atlantique. Et puis vous avez également le vert qui gagne de la place dans tous les jardins de ville parce que la crise oblige, peut-être, je n'en sais rien, mais on fait moins de fleurs et on décore beaucoup plus les pelouses et les jardins de ville avec des végétaux pérennes, c'est-à-dire des végétaux à feuillage persistant, comme les Eleagnus et Benjei, qui vous donnent de très jolies floraisons blanches et qui sont très parfumées, qui vous donnent des petites baies que les enfants adorent et qui peuvent manger sans danger. Et puis vous avez toute la grande mode des graminées.
Ah oui.
Alors les graminées, ben, ce sont toutes ces fétuques, tous ces carex, toutes ces plantes. Le bambou est une graminée aussi.
Et la crise, j'allais dire, Michel, que la crise va aider aussi ces graminées encore plus à fleurir. Pourquoi?
Ah ben ça va les obliger à fleurir parce que ces graminées fleurissent en épis, roses, jaunes,
oui,
violets, mais tout simplement parce qu'elles vont durer plus longtemps, elles sont voilà, installées en permanence dans les jardins, elles vont très bien vieillir, elles sont parfois même un peu envahissantes.
Si je prends une couleur bleue, qu'est-ce que vous me répondez?
Alors couleur bleue, je vous répondrai plimbago, et plimbago rampant ici en Saintonge, et qui est une sorte de plimbago qu'on installe au bord d'un timbre. Je vais vous expliquer ce qu'est un timbre, c'est une grande auge en pierre que l'on remplit de terre dans son jardin, et que où l'on installe des plantes qui redescendent le long de la pierre, et c'est très très beau. En plus, ce bleu va durer du mois de mai-juin jusqu'au mois de novembre.
Alors nos chères roses trémières du côté de Talmont, et aussi quand même dans tout le sud-ouest...
Vous avez prononcé un nom magique, la rose trémière. Ouais. Les demoiselles de Talmont, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elles sortent endimanchées, avec leur joli chapeau à fleurs, et on les voit défiler tout l'été, et on récolte les graines après le 15 août, pour les semer dans son jardin. Mais vous savez, c'est une fleur de feignant. On jette la graine par-dessus son épaule et elle germe là où elle veut.
C'est pas mal du tout. Alors moi j'ai un carnet de bord entre les mains qui s'appelle le carnet de bord du jardinier chez Geste Édition. Ça, c'est votre dernier bébé.
Et ça va vous donner du travail.
Bah oui, parce que non, mais alors, bon, évidemment, il y a tous les trucs à savoir saison par saison. Et en même temps, c'est intéressant parce que là, en fait, vous faites faire aussi un peu le boulot par les acheteurs de ce livre, quoi.
Eh ben oui, mais parce que tout simplement, lorsqu'on a semé ou planté quelque chose, ou repiqué même un végétal, on ne s'en rappelle plus à quelle date on l'a fait exactement, ouais, l'année suivante. Et si c'était la bonne période, on voudrait revenir à la bonne période. Eh bien, on consulte le carnet de bord, et à ce moment-là, c'est un peu la mémoire du jardinier que je vous propose.
Oui, et puis c'est vraiment un bel objet, hein, je tiens à le dire, c'est vraiment un très beau petit livre, le carnet
c'est
de bord
bon
du jardinier.
C'est un beau livre-objet.
Ah oui, vraiment, signé Michel Lys.
On peut millésimer comme on veut, car il y a un petit encadré pour pouvoir mettre l'année de référence que
tout
l'on souhaite. Et puis il y a un conseil, par exemple, sur cette semaine-là, la dernière semaine du mois d'août, et la première semaine du mois germinal du calendrier républicain. Nous sommes le premier germinal aujourd'hui.
Alors moi, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver chez vous à Sainte. On se retrouvera tranquillement, on ira faire un tour dans votre jardin, on fera un reportage. Voilà, je vous souhaite donc une bonne journée, cher Michel, du côté de Breuillet. C'est là que l'on peut vous retrouver avec les auditeurs de France Inter et de France Bleu. Là aussi, vous y participez du côté de Royan. Merci beaucoup, cher Michel. Au revoir.
Apocalipse de meros hips com um falso alarme. Economistas, médicos, políticos apenas nos tratavam com escárnio. Nossas visões se revelaram válidas e eles se calaram, mas é tarde. As noites estão ficando meio cálidas e um mato grosso em chamas longe arde. O verde em cinza se converte logo, logo. É fogo.
É fogo.
É fogo. Éramos uns poetas loucos místicos, éramos tudo que não era ação. Agora são contados estatísticos os cientistas que nos dão razão. De que valeu em suma a suma lógica do máximo consumo de hoje em dia. De uma bárbara marcha tecnológica e da fé cega na tecnologia. Há só um sentimento que é de dó e de malogro. É fogo.
É fogo.
É fogo.
É fogo.
É fogo.
É fogo.
Doce morada bela, rica e única, dilapidada só como se fosses a mina da fortuna econômica, a fonte eterna de energias fósseis. O que será com mais alguns graus Celsius de um rio, uma Bahia ou um Recife? Ou um ilhéu ao léu clamando aos céus se os mares subirem muito em Tenerife? E dos sem água, o que será de cada súplica, de cada roubo? É fogo,
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 é fogo.
Antártida, deixamos nossa marca no planeta. Aliviemos já a pior parte da tragédia anunciada com trombeta. O estrago vai ser pago pela gente toda. É foda.
É fogo.
É fogo.
É fogo.
É fogo.
É fogo.
É a vida em jogo. É foda.
É fogo.
É fogo.
É fogo.
É fogo.
Eh bien, nous poursuivons notre voyage au pays de Darwin avec Marc Giraud. Marc, bonjour.
Bonjour Denis.
Nous allons retrouver donc le cher Darwin. On va dire qu'il a 23-24 ans à peu près, donc il est sur le Beagle.
Voilà, c'est ça.
Il a toujours le mal de mer.
Il a toujours le mal de mer.
Alors on n'est pas encore au Galapagos, hein, on n'est pas encore là. Et donc on va le retrouver en Amérique du Sud pendant quand même pas mal de semaines. Et comment là aussi il se forge, parce que c'est quand même un type étonnant qui a énormément d'intuition.
Oui.
Qu'est-ce qu'il voit là?
Il voit énormément de choses. Il collecte des fossiles qui sont apparentés aux espèces actuelles. Donc, il commence à avoir des parentés. Il commence à réfléchir. Il montre aussi qui il est parce qu'il fait beaucoup de cheval. Hein, c'est un bon cavalier. Comme il évite de rester sur le bateau, il se déplace le plus possible à terre. Et il y a des déplacements qui font quelquefois plusieurs semaines, des étapes de 10 heures. Et donc, il épuise ses montures. Et les fermiers là-bas, ils s'en fichent un peu. Oui. Et un Esteranza, un fermier de là-bas, lui dit un jour, mais éprenez, allez-y.
vas-y plus vite. Et Darwin dit, mais non, je vais pas y prôner cette pauvre bête, elle est crevée. Et l'autre lui dit, mais on s'en fout, elle m'appartient. Et Darwin dit, mais il pouvait pas comprendre que c'était par respect pour l'animal que je ne voulais pas y prôner. Et il montre déjà qu'il a une grande empathie, que ça soit pour les hommes ou pour les animaux d'ailleurs, hein, parce qu'il était contre l'esclavage. Hein. Il s'est même battu, lui, Cassie Pacifique, il s'est battu avec le capitaine du Beagle, la Fitzroy, qui avait quand même un sacré caractère. Il s'est opposé à lui pour attaquer l'esclavage quand même.
Oui. Et alors donc on voit bien qu'effectivement il condamne cette brutalité. Est-ce qu'on en fait un protecteur de la nature déjà avant l'heure celui-là ou...
Oui, et de la nature et de l'écologie et des animaux en partie. Alors je ne vais pas dire que c'est l'inventeur de l'écologie ni de la protection animale, hein, mais il avait beaucoup d'empathie pour tous les animaux. Il parlait des pauvres bêtes là pour ses chevaux. Hein. D'ailleurs c'est un passionné de chasse quand il était petit. Il a fini par arrêter en disant que l'instinct barbare avait fini par céder le pas sur l'amour de la science. C'est comme ça qu'il en parle. Mmh. Hein. Et j'ai une petite anecdote pour montrer que même à la fin de sa vie, donc quand il était dans sa maison à Downhouse, un jour il y a un voisin qui laisse mourir ses moutons. Mmh. Donc il est scandalisé, il bat la campagne, toute la campagne pour trouver des témoins, pour attaquer l'homme et le faire condamner pour justement contre la souffrance animale. Donc il a quand même joint l'acte aux paroles et aux idées.
Merci Marc Giraud, on se retrouve très vite. Darwin, c'est tout bête. Au revoir Marc.
Au revoir Denis.
C'est un excellent bouquin. Un grand merci à Sophie Ledoré et Jean-Christophe Pinaza, à Xavier Pestugia qui a réalisé cette émission, à Emmanuel Chupin qui a choisi les disques, et puis à notre cyberdocumentaliste Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Je vous renvoie d'ailleurs aussi sur un site sur l'actualité environnementale en temps réel. Vous verrez ça aussi sur le site de CO2, c'est très très intéressant. Possibilité pour vous de podcaster, donc d'enregistrer cette émission pendant une semaine, ça marche, de la réécouter pendant 4 semaines, et puis elle sera rediffusée cette nuit entre 4h et 5h du matin dans l'émission de Brigitte Palchine Nocturne. Je vous retrouve demain pour l'atelier Mon Petit Loup à 19h55 après les petits bateaux avec de livres pour enfants.
Ce type d'enquête permet aussi d'éclairer, de guider l'élaboration des politiques de prévention.
D'où l'importance des campagnes.
Absolument, puisque on est passé d'une utilisation du préservatif qui était de l'ordre, on va dire, de 5% avant les campagnes de prévention au premier rapport, à aujourd'hui près de 90% sur l'espace de 20 ans, ce qui est un résultat qui montre que quand la prévention est bien faite et s'accorde avec les tendances sociales, elle est efficace.
Nathalie Bajos et Michel Bozon, les invités de Fabienne Chauvière dans Les Aventuriers. Dans quelques instants, Denis Chessou, excellent week-end à tous. Il est un petit peu plus de 15h.